J'en profite pour vous remercier, Madame la maire, et vous remercier, chers collègues, et à vous toutes et tous de vous adresser d'abord mes meilleurs voeux, comme Madame le maire, d'une année que nous espérons tous un tout petit peu plus sereine que l'année précédente. Alors, je vais vous proposer... Alors, qu'est-ce qui me rend légitime pour vous parler d'éducation morale et civique ? Alors, bon, le fait... Si, allez, j'ai une vraie légitimité que personne ne peut me contester. Légitimité d'âge, je suis en fin de carrière. Oui, tout à fait, c'est ma dernière ligne droite et c'est pour ça que j'en profite pour être parmi vous, pour vous rencontrer. J'ai besoin de renouveler cette relation directe avec des enseignants du premier et du second degré. J'ai passé ma vie à naviguer entre le premier degré, j'étais prof d'école normale, le second degré et l'université. J'ai enseigné 8 ans à l'université. Et j'avoue que j'ai eu la chance de ne jamais avoir à faire un choix définitif. Et je suis revenu à l'inspection générale dans le premier degré, après l'avoir quitté pendant 20 ans pour le second et le supérieur. Et tous les niveaux m'intéressent parce que tous nos élèves ont... véritablement besoin de vous, plus trop de moi, mais de vous, pour réussir leur formation, mais au-delà, réussir leur vie. Et si j'ai accepté avec plaisir l'invitation de parler des nouveaux programmes d'enseignement moral et civique, c'est aussi parce que je crois que nous sommes là à la croisée entre... qui fait la caractéristique de l'enseignement scolaire en France, un enseignement fondé sur une organisation quand même très marquée par les disciplines d'enseignement, et une formation qui, elle, devrait être complètement marquée par les besoins des élèves. Et ce croisement entre les deux est vraisemblablement le grand honneur des enseignants et puis leur grande difficulté. Comment être à la fois les passeurs d'un savoir constitué et ceux qui écoutent des élèves et qui essayent de comprendre comment ils apprennent, ou plutôt, pour ceux qui apprennent facilement, c'est pas difficile, comment ils ont du mal à apprendre. Alors, je vous ai dit, je vais faire quelques introductions à rallonge, parce que tout simplement, derrière enseignement moral et civique, il y a quelque chose d'explicite, mais... qui dépasse largement le cadre d'un enseignement profondément renouvelé, qui est celui de la question de savoir est-ce que l'école peut enseigner les valeurs de la République. Vous allez me dire, à poser cette question, je suis sacrément culotté, c'est le bénéfice de l'âge, c'est vrai, je pose la question. La ministre, suite aux événements dramatiques de l'année dernière, la ministre du gouvernement a fait le choix, bien sûr, qu'il fallait que nous enseignions les valeurs de la République. Simplement, moi je souhaite en introduction rappeler simplement ce que ça suppose pour des enseignants, du premier comme du second degré, d'enseigner les valeurs de la République. Et pour moi, une des premières questions... sur laquelle je nous invite, moi aussi, à continuer à réfléchir très clairement, c'est la fonction de l'école. Est-ce que l'école doit se mêler d'éducation ? Alors, l'ancien prof d'histoire et historien que j'étais, s'il regarde à travers l'histoire, sait très bien que l'école ne s'est pas toujours mêlée d'éducation. Vous savez aussi bien que moi que notre ministère était ministère de l'instruction publique avant d'être de l'éducation nationale. C'est tout simplement que l'école a aussi et peut peut-être se contenter d'être le lieu du savoir, le lieu de la vérité scientifique, c'est-à-dire un lieu qui se protège, se prémunit des croyances. Savoir, croyance, c'est une tension hein, dans notre école et évidemment depuis un an, mais bien au-delà d'une année, c'est vraiment une question que nous devons nous poser. Alors ça devient terrible parce que chaque fois que j'interviens sur ces questions, c'est après un événement un événement dramatique. Je commence à me dire, je porte malchance. Mais ce coup-ci, j'ai envie de dire, la question est d'autant plus intéressante après ce qui s'est passé en Turquie, à Istanbul, hier. Quand même intéressant. Un attentat pas encore totalement revendiqué, quand même, qui se passe dans un État qui est un État musulman et qui se revendique comme tel. Ça nous pose vraiment, ça nous interroge par rapport à cette tension entre ce que l'école doit donner et la question de la croyance. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la question ne se pose plus de savoir si l'école peut ignorer des enjeux éducatifs. Mais malgré tout, si l'État, la République française, a fait le choix de ne pas ignorer les enjeux éducatifs, c'est sur vous, chers collègues enseignants, que se pose la question de la légitimité des méthodes pour s'engager sur ce terrain. C'est-à-dire, quand j'enseignais à l'université l'histoire, je ne me posais pas tellement de questions quant à la légitimité des méthodes pour enseigner l'histoire. Quand je vois un enseignement qui est moral et civique, je me dis très naïvement que la légitimité des méthodes est d'une autre nature. Enfin, j'espère. J'espère qu'on n'enseignera jamais plus un enseignement moral comme on pourrait enseigner l'histoire à l'université. Nous sommes loin des préceptes moraux. Et je pense qu'à Bagneux, peut-être encore plus qu'ailleurs, et dans les collèges encore plus que dans le premier degré, les collègues savent très bien que inculquer des préceptes moraux, je souhaite beaucoup de plaisir à un enseignant de tenter de le faire. À mon avis, il ne resterait pas longtemps enseignant dans ces conditions. Mais donc, nous avons à nous interroger sur cette question. Deux mots rapidement, toujours dans cette première introduction, la question de l'éducation et de l'instruction. Pourquoi cette question est encore d'actualité ? Elle est tout simplement inscrite dans une tension qui a formé l'école de la République en France. Alors, ça y est, l'historien reprend le dessus. Vous m'en voudrez pas trop, je vous jure d'être très bref. Mais quand même, l'idée d'une école éducatrice, alors elle est née très très loin à Sparte, il y a plus de deux millénaires, mais a été quand même reprise au cours de la Révolution française, très largement reprise autour de Robespierre. Il s'agissait à ce moment d'arracher les jeunes au sombre milieu familial qui était conditionné par une Église qui empêchait de réfléchir. C'est pas du Robespierre pur, rassurez-vous. Il n'a pas dit ça, jamais dit ça, mais quand même, c'est un petit peu ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que c'était la volonté d'une partie d'un de nos fondements profonds, la Révolution française, qui voulait extraire des familles, les enfants, pour les ouvrir à autre chose que des croyances. Et à côté de Robespierre, Il y a Condorcet, alors je ne veux pas les opposer trop, c'est caricatural et on n'a pas le temps, mais quand même, je veux dire, Condorcet, c'est une foi, excusez-moi du terme, c'est pas le bon mot, mais j'en trouve pas d'autre là dans l'instant, une foi en la connaissance. Le fait de savoir suffit à éclairer et à permettre aux jeunes de réfléchir, de se sortir des croyances. La lumière vient de la connaissance et pour Condorcet, très clairement, il ne s'agit absolument pas d'opposer le rôle de l'État instructeur au rôle de la famille éducatrice, mais bien de montrer qu'une instruction, une transmission de connaissances permet effectivement d'élever l'enfant. Et nous vivons toujours un tout petit peu, quand même fort, cette tension entre une éducation. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'ose plus, et heureusement, on ne pense même plus aller aussi loin que ce que souhaitait ou ce que souhaitait Robespierre et surtout ses amis politiques, parce que l'histoire du XIXe siècle et d'une partie du XXe siècle nous a montré très largement ce que pouvait être une éducation quand elle versait dans le totalitarisme. Donc on n'ose plus en parler, mais quand même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on serait ravis qu'il n'y ait pas la famille derrière de temps en temps, surtout nous, profs. Qu'est-ce que la famille et ses croyances nous embêtent, surtout dans les circonstances actuelles. Donc on a toujours cette tendance et peut-être qu'on a un peu de mal à être persuadé que ce que nous enseignons peut suffire à élever, à éclairer un enfant. Moi, j'en reste profondément persuadé. Alors, dernier point, j'ai regardé un tout petit peu pour préparer cette intervention et d'autres, et je vous donnerai non pas des éléments de bibliographie. Ça, depuis que je suis à la fac, j'ai fini, je vous donnerai quelques exemples de choses à lire, très brefs, parce que, soyons modestes, on a beaucoup de choses à faire, mais quelques exemples. Et j'ai essayé de regarder un petit peu à travers nos textes officiels depuis le milieu du XXe siècle, sur la question qui est posée aujourd'hui, enseignement moral, enseignement civique, ce qui s'est passé dans nos programmes depuis la Seconde Guerre mondiale. Et très clairement, il y a une constante forte. L'éducation nationale, après l'instruction publique d'ailleurs, l'éducation nationale a toujours eu la vocation et pour mission de former le citoyen. C'est la seule vraie constante. Où que vous regardiez dans les textes, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même souvent avant, je fais une parenthèse du régime de Vichy qui est sur une autre logique, mais la République demande à l'école de former le citoyen. Or, ce qu'elle met derrière former le citoyen peut prendre des formes très différentes, mais c'est une constante. Deuxième point constant, mais plus délicat à lire, les valeurs de la République et la morale sont toujours présentes, mais plus souvent, chronologiquement, plus sous-jacentes qu'explicites. Mais elles sont toujours présentes. Comme si, et là, laisse à votre réflexion. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai l'impression à lire les textes que on ne peut pas former le citoyen sans avoir en arrière-plan un système de valeurs et un système moral. On ne peut pas totalement les déconnecter. Alors, selon les ministres de l'Éducation nationale, c'est plus ou moins explicite, mais c'est toujours présent. Puis, ce qui est arrivé plutôt depuis la fin des années 70, début des années 80, c'est un nouveau concept éducatif qui a fait irruption et qui a envahi notre système éducatif, c'est celui du vivre ensemble. Vous pouvez regarder les textes avant les années 70, ça n'existe pas, totalement absent. Je veux dire, comme si, et peut-être parce que ça allait de soi, implicitement. Enfin, où on faisait semblant que ça aille de soi. Mais depuis la fin des années 70, la question du vivre ensemble ne va manifestement plus de soi et l'école vit une tension, une autre tension, une articulation permanente entre une dimension individuelle et une dimension collective des apprentissages. Et aujourd'hui, au moment où on met en place la réforme des collèges, cette tension est bien présente. Place du collectif, place de l'individuel dans la formation de l'élève. Ou, autre manière de poser la question, comment dans un système qui est quand même fondé sur le collectif, la classe, le groupe d'élèves, comment tenir compte des aspirations ou des besoins individuels des élèves. Et puis toujours pour les valeurs de la République, pour l'enseignement moral et l'enseignement civique, c'est ce qui est une des caractéristiques pédagogiques de l'histoire des programmes, ce sont les hésitations pédagogiques. Manifestement, le on du ministre à l'enseignant, on s'interroge quant au dispositif pédagogique, à la didactique qu'il faut mettre en place pour enseigner ces disciplines. Beaucoup plus que dans toute autre matière. Alors, bien sûr, il y a des réflexions didactiques sur l'enseignement des maths, heureusement, mais à part la petite période des maths modernes, fondamentalement, ces réflexions didactiques ne remettent pas totalement en cause l'acquis précédent. Sur la langue française, il en va de même. Il y a des évolutions. Si vous regardez les programmes de maths, je suis historien, donc absolument pas matheux de formation, donc c'est un objet d'étude, moi, qui m'intéresse beaucoup, mais vu de très très loin, les mathématiques. Mais ça m'amuse beaucoup de voir l'évolution des programmes, dans le premier degré en particulier. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le programme de maths? Pas grand-chose à l'échelle d'un néophyte comme moi, on y apprend toujours les quatre opérations depuis la nuit des temps. Mais par contre, c'est le moment où on y introduit telle opération, tel point mathématique. Ce qui change, c'est simplement un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et c'est appuyé, les deux sont appuyés sur des conceptions didactiques parfaitement recevables. Anticiper un apprentissage, ça permet à l'élève, dans une conception spiralaire de l'enseignement, de voir la soustraction ou la division plus longtemps. Mais pour d'autres didacticiens, alors c'est plutôt l'école piagétienne, il vaut mieux attendre que l'élève soit mûr pour introduire telle notion. Ça veut dire qu'on est moins spiralaire, mais on concentre davantage. J'ai envie de dire, c'est votre posture, chers collègues d'enseignants, je ne sais pas s'il y a des profs de maths dans la salle, mais il y a des profs des écoles qui enseignent les maths, c'est votre posture qui fait le choix, réellement. C'est vous, dans votre conception de l'organisation, soit vous préférez effectivement revenir plus souvent sur telle opération et donc l'introduire plus tôt, mais fondamentalement, ça ne remet pas en cause un principe didactique. Par contre, enseigner la morale, c'est à mes yeux un tout petit peu différent. Donc, première introduction un peu longue, vous m'en excuserez, mais c'est quand même poser cet enseignement comme un enseignement pas tout à fait équivalent aux autres. Alors, l'exposé de cet après-midi, pour entrer vraiment dans le vif du sujet,